15h22 minutes à Boulevard 102.1. Antonine Iacarini, es-tu une fan de tennis?
Pas ben ben. En fait, je peux même pas t'expliquer comment fonctionnent les points. Vraiment pas.
Mais sais-tu quoi? En fin de semaine, on dirait que c'est pas grave.
Non?
On dirait qu'avec l'Omnium Banque Nationale qui se tient cette année du côté de Montréal pour les hommes, on suit tout un peu plus le tennis parce que ça se passe chez nous. Puis cette année, on a une raison de plus de le faire. C'est que Félix Auger-Aliassime, l'excellent Québécois, part comme 2-3e favori pour gagner ce tournoi-là, qui n'a pas été gagné par un Canadien depuis des dizaines et des dizaines d'années. Là. Ou du moins par un Québécois encore moins. Là. Même un Québécois, je ne suis pas sûr, soit déjà arrivé. Pense pas. Là, c'est le gros nom dans le chemin de Félix Auger-Aliassime parce qu'il y en a quelques-uns des noms importants qui ont déclaré forfait. Là, c'est Alexander Zverev qui, lui, est le 2e mondial en ce moment. Ça, c'est comme celui qui partirait comme favori. Puis après ça, t'aurais Félix Auger-Aliassime et Alex de Minaur, l'Australien, qui sont comme à peu près à la même place. Mais aisément, je dirais que dans le top 3, Félix Auger-Aliassime est vraiment là, puis il a des vraies chances de gagner à maison en fin de semaine du côté de Montréal. Puis je dis en fin de semaine, ça commence en fin de semaine, mais évidemment que ça va s'étirer sur la semaine au complet, même un petit peu plus. Mais moi, je vais suivre ça, même si à la base, je ne suis pas un grand fan de tennis.
Oui, mais c'est ça qui arrive. À un moment donné, on accroche sur quelqu'un, il y a un Québécois qui se démarque, puis ça augmente l'intérêt. Il y a peut-être des gens qui vont se mettre à découvrir le tennis. Moi, je serais curieuse de savoir comment il fait pour gérer la pression que ça doit lui apporter, parce que là, tous les yeux sont tournés vers lui là, en
ben
fin
oui.
de semaine, en l'absence de d'autres joueurs qui auraient pu, évidemment, être les favoris.
Yannick Sinner, notamment, qui est le meilleur joueur mondial en ce moment, qui a déclaré forfait. L'excellent Novak Djokovic aussi, Carlos Alcaraz, qui est toujours absent.
Donc, tous les yeux sont rivés vers lui. On va suivre ça. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont passionnés puis qui vont voir tous les matchs. Puis... Donc, probablement que même si je n'écoute pas, je vais en entendre parler.
Mathias Turcotte dans l'actualité.
Oui, l'avocat de la défense des deux Américains qui ont été reconnus coupables du meurtre de l'entrepreneur québécois Daniel Langlois et sa conjointe il y a de ça quelques années feront appel du verdict. C'est tombé il y a de ça quelques jours. Puis pour vous rappeler les événements, Daniel Langlois et Dominique Marchand avaient été retrouvés morts brûlés dans leur véhicule du côté de la Dominique, une de leurs demeures qui s'y trouvait en 2023. De ce qu'on comprend, c'était une chicane de voisins avec Jonathan Lehrer et Robert Thomas Snyder, fils, qui a mené justement ces deux hommes-là à commettre l'irréparable envers Daniel Langlois et sa conjointe. Les deux hommes qui ont été reconnus coupables, selon l'avocat de la défense, on va utiliser plusieurs motifs pour expliquer la décision d'aller en appel. On a eu plus de détails concernant l'arrestation de Philippe Benoît, l'homme qui est présentement accusé d'avoir tué son propre fils et qui a engendré une chasse à l'homme qui a duré 4 jours. Selon ce qu'on sait, Philippe Benoît aurait chargé les policiers avec un couteau pour l'empêcher de les atteindre, les policiers qui auraient tiré à la jambe de l'homme. Par la suite, l'homme qui aurait été emporté à l'hôpital pour y recevoir des soins. Bien sûr, le Bureau des enquêtes indépendantes qui va donc ouvrir une enquête parce que lorsqu'il y a un blessé grave dans une intervention policière, c'est coutume. On va avoir plus de détails probablement au cours des prochaines semaines.
Et on va en jaser dans à peu près une heure avec l'ex-enquêteur au SPVQ, Roger Ferland, que vous adorez.
Le maire de Saint-Antonin, Denis Fortin, qui se retire temporairement de ses fonctions de maire en raison de... parce qu'il est formellement accusé d'agression sexuelle et d'agression sexuelle armée. Ça, c'est depuis hier. Ce qu'il a dit dans un message, c'est à la lumière des faits découlant d'une mise en accusation me concernant. Je vous informe de ma décision de me retirer temporairement de mes fonctions de maire. On a demandé à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les opérations de la ville se poursuivent. Les faits qui sont reprochés à l'homme politique remontent entre août 2016 et janvier 2017 alors qu'il était conseiller municipal du côté de Saint-Antonin. Plusieurs dossiers du côté de la ville de Lévis. Je commence avec la grève des ingénieurs qui fait en sorte qu'il y a certains projets qui battent l'aile du côté de Lévis. Et la ville de Lévis qui demande une autorisation environnementale pour aller de l'avant malgré la grève présentement en cours. On parle notamment de la colonne vertébrale du réseau de traitement des eaux du côté de Lévis qui a besoin d'être remplacée. L'échéancier du projet de 12 millions de dollars prévoyait le début des travaux préparatoires lundi prochain. Mais en raison de la grève, on attend encore des autorisations environnementales pour aller de l'avant avec ce projet-là. Du côté de Stephen Blainey, on dit on veut aller de l'avant, donc donnez-nous-les malgré la grève. Parce que si on n'est pas capable de faire ces travaux-là, encore une fois, on va avoir des problèmes de traitement des eaux usées du côté de Lévis. D'ailleurs, présentement, c'est pendant le chantier, la ville qui devra temporairement rediriger les eaux traitées vers la rivière Alassie, donc qui vont être plus ou moins traitées, là. Donc, si on prend du retard dans ce dossier-là, ça va ressembler... Ça va créer certaines problématiques. Et je termine avec le maire Stephen Blainey qui a aussi annoncé aujourd'hui que la rénovation du quai Paquette à Lévis qui est en mauvais état, là, on va se dire, c'est présentement 30% du quai Paquette qui est fermé au public, va être la priorité dans les projets municipaux de la ville de Lévis. On a même affirmé aujourd'hui que ça se pourrait qu'étant donné que les travaux sont plus grands que prévu par la ville, qu'on doive retarder certains travaux pour pouvoir prioriser ceux au quai Paquette.
Merci beaucoup, Mathias. Ça brasse depuis la sortie du film Françoise de Louis Morissette et notamment sur les ondes du 99.5 Montréal. Il y a eu, Antonine, une discussion animée entre une animatrice et Louis Morissette.
Oui, parce que moi, j'ai pas vu le film Françoise. Je sais
moi
pas
non
si
plus.
Vous l'avez vu, les gars.
C'est quoi, tu détestes les trans?
Non, je...
Parce que en passant, c'est vraiment quelque chose...
C'est le débat qui tourne autour du film en ce moment.
C'est aussi niaiseux que ça puisse paraître. Il y en a qui pensent que si t'as pas vu le film Françoise, parce que t'as un dédain des trans, puis...
Ou si t'as pas aimé ça. Mettons que tu le vois, puis tu dis « j'ai pas aimé ça », là, on est dans un débat là, de « culture war », comme on dit. C'est des sujets qui sont extrêmement sensibles. Louis Morissette est en entrevue à Cube hier avec Harry Mabrik et Rémi Villemur. Et la discussion est devenue assez corsée rapidement, tellement qu'à un certain point, Louis Morissette a comme utilisé un drôle de procédé dans la discussion.
Extrait.
Je pense pas que les critiques proviennent de ça. Je sais que Mathieu Bock-Côté l'a fait, mais Mathieu Bock-Côté, qui a critiqué, c'est comme aujourd'hui, c'est mercredi. C'est comme, c'est juste dans l'ordre
C'est-à-dire, mais non, c'est dans l'ordre des choses de quoi? On peut-tu critiquer ton film?
Oui, on peut critiquer, mais mettons que sa critique à lui, elle n'a pas étonné.
OK.
Fait que je pense pas que ce soit ça qui est la critique du film, parce que les critiques ont reçu ce film-là plutôt positivement. Fait que qu'il y a des gens qui n'aiment pas le film, ça fera partie de la vie, ça fait partie de toutes les créations que j'ai faites.
99.5 Donc, Montréal. Je remets en contexte le film pour qu'on comprenne bien pourquoi ça peut devenir un débat plus houleux. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle François, qui est dans le milieu du cinéma et qui, pour avoir des subventions, décide de cocher certaines cases de quota et devient Françoise, une personne trans. Donc, il y a les gens qui critiquent le film sur la qualité du film, mais ça devient vite aussi une critique du propos comme tel. Tout le monde a une opinion à propos des quotas, de l'importance de la diversité dans l'espace public. Donc, ça amène des discussions houleuses. Karim Abrik, elle a des opinions sur la question qui sont connues. Elle a maintenu son point avec Louis Morissette pendant une bonne partie de la discussion en disant que pour elle, premièrement, elle constate qu'on est passé à autre chose dans la société, là, qu'on n'a plus besoin d'avoir des quotas comme tels, qu'on est rendu dans des acquis. Évidemment, je résume, là, son propos est plus étayé que ça. Et Louis Morissette est en désaccord avec elle, disant, attaquant notamment Québécois, en disant Karima, sur les ondes de Cube et dans votre journal, c'est 90% de personnes blanches. Tu ne peux pas me dire que tout est acquis. Tu ne peux pas dire que ça y est, c'est acquis. Et Karima Brick amenait aussi l'argument de dire « Moi, je veux que des jeunes hommes blancs aussi se fassent donner une chance. » Puis elle renvoie la balle à Louis Morissette en disant « Toi, là, t'es un petit gars de Verdun, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a donné ta chance. Est-ce qu'on va bloquer la chance à certaines personnes parce qu'on met certains quotas? » Bref, tout ça, c'est des débats qui se peuvent. Mais là, dans l'extrait que tu nous as fait entendre, il fait référence à la critique de Mathieu Bock-Côté. Pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu Bock-Côté, c'est le conjoint de Karima Brick.
Et c'est public en passant. Là, on vous l'apprend peut-être, mais c'est quelque chose qui est connu. C'est pas un gros scoop qu'on sort aujourd'hui, c'est relativement connu.
C'est connu, mais c'est pas un couple non plus là, qui va se promener partout là, puis parler de leur vie de couple. Ils sont pas nécessairement dans le 7 jours comme Véro puis Louis. Là. C'est peut-être un petit peu moins connu. Eux vivent leur relation beaucoup plus de façon publique. Karima Brick, ben, je pense qu'elle fait le choix d'avoir sa propre carrière, elle a ses propres opinions. Et je me suis vraiment demandé pourquoi elle se faisait lancer en pleine face. Bien, premièrement, en plus, c'était pas très gentil là, ce qu'a dit Louis Morissette sur Mathieu Bock-Côté. C'est comme j'invalide son opinion parce qu'on sait bien qu'il critique tout le temps de toute façon. Et pourquoi tu lui parles de son chum exactement?
Hmm.
C'est deux personnes différentes. C'est quoi le rapport?
Pis c'est que tu viens la placer dans une situation excessivement complexe parce que là, Ça crée un malaise.
Ça crée un malaise.
À la place de Karima, tu veux comme défendre ton point, puis t'es pas nécessairement d'accord avec ce que Louis dit, mais en même temps, tu veux pas paraître de la personne qui va juste aller défendre son conjoint.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, elle est devant le choix de laisser passer puis de pas défendre ou d'embarquer dans le jeu de Louis Morissette puis de commencer à défendre les propos de son chum.
Ben, c'est
pis...
quand ça devient personnel.
Ben, ça n'a pas rapport.
Quand un débat sur une œuvre devient personnel, personne va aller nulle part avec ça.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup. J'aime ça, la mécanique des débats. J'aime ça, débattre dans la vie. Puis, généralement, quand tu tombes dans le personnel, c'est parce que tu as épuisé tes arguments ou que tu as l'impression que tu es en train de perdre ton argumentaire. Ça, c'est la première des choses. Puis, ça m'amène à vous dire que je trouve que de réduire une femme dans l'espace public à son chum, je pensais vraiment que ça, on était passé à autre chose. Là. C'est pas, elle n'est aucunement responsable des opinions de son chum. Son chum est aucunement responsable des opinions qu'elle émet. Ce sont deux personnes différentes. Puis je pense qu'on n'est plus à l'époque où on appelait les femmes Madame Mathieu Bock-Côté.
Fait que toi, tu l'as perçu comme quoi Louis Morissette utilisait l'opinion de Mathieu Bock-Côté en disant c'est la tienne aussi, fait que j'invalide un peu votre opinion, c'est ça un peu?
C'est comme s'il disait... C'est ça, c'est votre opinion là, à vous puis votre petite gang, puis l'opinion à ton chum, là, mais tu sais, Mathieu Bock-Côté, il critique tout le temps, de toute façon, là, on la connaît, son opinion. Puis c'est drôle parce que le propos même de Mathieu Bock-Côté, que je suis retournée lire, disait que ce film-là, qui était à ses yeux militant, faisait comme en sorte de culpabiliser les gens qui remettent en question. C'est comme si tu viens invalider quelqu'un qui vient remettre en question les politiques pro-diversité de genre, notamment les quotas comme tels là, qui sont abordés dans ce film-là. Puis la réaction de Louis Morissette en entrevue, ben c'est exactement ça. C'est comme votre opinion n'est pas valide. On peut même pas remettre en question les quotas.
Puis tu vois, quelqu'un l'a vu autrement que toi en disant, ben il lui a parlé de son chum parce que Bock-Côté a pris position sur Internet récemment. Puis son commentaire a fait beaucoup parler, donc c'était d'actualité. Honnêtement,
oui.
Il y a personne qui est dans la tête de Louis Morissette à part Louis Morissette. Peut-être qu'il aurait nommé Mathieu Bock-Côté avec n'importe quel animateur triste d'en face.
Puis c'est parce qu'aussi, les opinions de Mathieu Bock-Côté et de Karima Brick ne sont pas nécessairement les miennes en passant. Je ne défends pas leur opinion, leur positionnement
ben
sur
non,
la question de la diversité
de
genre.
Tu penses pas comme eux, tu penses comme ton chum.
Exact, exactement. Mais qu'est-ce que pense mon chum?
Si on le sait pas.
Moi, mes positions...
On va me faire canceller.
Tu vas te faire canceller. Mes positions sur la diversité de genre puis les politiques pro-diversité sont différentes de celles de Mathieu Bock-Côté, OK, à la base. Je suis souvent en désaccord avec l'angle qu'il prend pour aborder ces enjeux-là. Maintenant, ça m'horripile qu'on utilise, ça aucun, il n'y avait pas besoin d'apporter précisément le nom de Mathieu Bock-Côté dans la discussion. Puis je trouve que c'est anti-féministe de le faire.
Au retour, on se parle des trends qui deviennent des mines d'or pour l'intelligence artificielle. Notre ex-stagiaire, maintenant employée, Ariane Bourbeau, qui va venir faire son tour en studio pour l'occasion. Puis ça va bientôt être le temps de se goûter de la petite bière de chez Chaloux aussi.
Le retour